Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Olivier Bonnel.
Le message du pape pour la prochaine journée missionnaire mondiale a été dévoilé ce samedi. Un message dans lequel François revient sur la joie d'évangéliser, en puisant le zèle dans la force du Christ et en sachant être attentif aux plus défavorisés. Le souverain pontife qui est attendu ce dimanche dans la communauté catholique italienne Sant'Egidio, dans le quartier du Trastevere, à Rome. Il y rencontrera les nombreuses personnes vulnérables dont s'occupe ce mouvement de laïcs très connu en Italie et qui œuvre aussi sur les cinq continents. Et puis comme chaque samedi, rendez-vous avec le livre pour Dieu et le commentaire de l'Évangile. Soyez les bienvenus dans ce magazine. Le message du pape pour la prochaine journée missionnaire mondiale a été publié ce samedi. Cette journée, la 88e du nom, sera célébrée le 18 octobre prochain et elle est l'occasion, comme chaque année, de se pencher sur l'activité missionnaire de l'Église universelle. Dans son message, François invite les croyants à retrouver une ferveur apostolique contagieuse, enracinée dans la joie de l'Évangile et exhorte à ne pas oublier les plus défavorisés. Le compte-rendu de Cyprien Viette.
Aujourd'hui encore, très nombreux sont ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. C'est pourquoi la mission Ad Gentes demeure une grande urgence à laquelle tous les membres de l'Église sont appelés à participer. C'est par ces mots que commence le message du pape invitant à renouveler le zèle missionnaire de l'Église. Cette journée mondiale de la mission est l'occasion d'une célébration de grâce et de joie. De grâce parce que l'Esprit-Saint envoyé offre sagesse et force à ceux qui sont dociles à son action. De joie parce que Jésus accompagne l'œuvre missionnaire. La joie est celle des disciples, forts de l'amour de Dieu qu'ils ont reçu et de la possibilité de le partager. Mais attention, avertit le pape, à ceux qui seraient trop pleins d'eux-mêmes et prétendent déjà tout savoir. Non, la mission passe par les petits, les humbles, les marginalisés, ceux qui sont sans voix, et que Jésus, rappelle François, a déclaré bienheureux. En citant largement saint Luc, le pape souligne le plan salvifique et bienveillant de la part du Père envers les hommes et rappelle cette joie de Jésus qui voyait la réussite de la mission de ses disciples. Pour François, la difficulté de la mission est aussi celle du monde contemporain, marqué par une tristesse individualiste. C'est pourquoi, poursuit-il, l'humanité a un grand besoin de puiser au sel lui apporté par le Christ en portant la joie de l'Évangile. Le pape relève aussi que dans certaines régions, le manque de vocation est souvent dû à un manque de ferveur apostolique contagieuse et il encourage donc les communautés paroissiales, associations et groupes à vivre une vie fraternelle intense en étant attentifs aux plus défavorisés. François exhorte enfin à faire mémoire du premier amour avec lequel Jésus a réchauffé le cœur de chacun, non pas pour en concevoir un sentiment de nostalgie, mais pour persévérer dans la joie.
Il y a le risque d'oublier les souffrances qui ne nous touchent pas de près. Réagissons et prions pour la paix en Syrie. Tel est le tweet du pape envoyé ce samedi depuis son compte Pontifex. La préoccupation du Saint-Père est grande envers la Syrie, toujours ravagée par la guerre et minée quotidiennement par les violences. Ce samedi, au moins 30 personnes ont été tuées dans une puissante explosion qui a visé un marché d'armes à Mayadin, une ville à l'est du pays, non loin de l'Irak. En plein cœur du quartier du Trastevere à Rome, 10 000 personnes attendront le pape ce dimanche, essentiellement des pauvres, des personnes âgées, des immigrés, assistés par la communauté de Sant'Egidio. Après la venue de Jean-Paul II en 1980 et 93 et celle de Benoît XVI en 2003, le pape François se rendra à son tour pour la première fois au siège de ce mouvement laïque né à Rome à la fin des années 60 et qui a désormais des antennes à travers le monde entier, notamment à Buenos Aires. Ce dimanche, le pape priera à la basilique Santa Maria in Trastevere avec les amis de la communauté en situation difficile et avec bien sûr certains membres de la communauté Sant'Egidio. Comment est née cette idée de visite du pape? Le président de Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, nous en parle.
La genèse est très simple. Nous sommes des fidèles du diocèse de Rome. Le pape, c'est notre évêque, donc on a eu la joie de pouvoir l'inviter directement pour visiter notre communauté qu'il connaissait déjà très bien à Buenos Aires. Et donc, nous avons envie de lui mettre en contact avec notre réalité ecclésiale, avec tous les pauvres qui nous suivent, qui font partie de la communauté. Tout le monde est vraiment heureux et il y a une grande joie, je dirais même un enthousiasme, d'accueillir cette pape qui parle toujours de l'Église des pauvres, des périphéries, et qui a mis les pauvres au centre de l'attention, pas seulement de l'Église, mais aussi de la société et du monde, et du discours politique. Et donc c'est très important que tous ces gens, un jour en plus avec ces papes, deviennent le centre de l'attention.
Andrea Riccardi a parlé d'une visite d'amitié, mais aussi d'espoir. Est-ce que vous partagez son point de vue?
Ah oui, la visite du pape sera un grand événement, mais surtout un nouveau élan pour notre communauté, avec beaucoup d'espoir pour l'avenir de notre communauté et surtout pour toutes les situations, les difficultés qu'il rencontrera. Parmi cette situation, il y aura un archevêque qui vient de Syrie et qui parlera au pape de la guerre. Donc nous espérons beaucoup dans un futur de paix pour la Syrie et nous croyons que la prière du pape et sa présence sera très importante pour ça.
Donc ça ne sera pas centré uniquement sur la charité?
Oui, c'est une forme de charité. Notre communauté travaille depuis longtemps dans les périphéries du monde et dans la périphérie du monde, on a rencontré la guerre, que c'est la mère de toutes les pauvretés. Et donc le grand travail que nous faisons pour la paix, pour la réconciliation, s'en sert dans le travail plus général pour les pauvres. Sans la paix, il n'y a pas de développement, il n'y a pas une société juste. Et donc, travailler pour la paix, c'est un fait de charité.
C'est pas la première fois qu'un pape vient vous rendre visite. Il y a eu Jean-Paul II, Benoît XVI aussi en 2009 et maintenant François. C'est vrai, vous l'avez dit, jamais le message de charité, de proximité n'a été, semble-t-il, autant associé à un pontificat. Je voulais vous demander quel regard vous portez justement sur la charité de François.
Il me semble une charité très évangélique. Comme le pape dit tout le temps, c'est l'évangile, c'est Jésus dans les évangiles qui rencontre les pauvres, et dans les évangiles nous rencontrons beaucoup de pauvres, des personnes malades, des gens en difficulté. Et donc c'est un des cœurs du message de l'évangile. Et je vois que le pape vit ça avec beaucoup de foi, mais aussi beaucoup de naturalité, de simplicité. Il aime beaucoup rencontrer les personnes personnellement, et ça pour nous sera très beau, car il y aura beaucoup de rencontres personnelles.
Vous avez dit que ça allait vous encourager, au-delà de la joie, cette visite. Est-ce que ça va, cette charité du pape François vous renforce dans vos choix par rapport à la communauté?
Pas seulement nous renforce, mais aussi il nous donnera un nouveau élan. Nous cherchons toujours d'améliorer notre vision du monde, notre rencontre avec les périphéries du monde. Et cette rencontre est toujours associée à une vie spirituelle, car il n'y a pas de rencontre avec les autres, il n'y a pas de service de charité sans la ressource d'un discours spirituel, de la rencontre avec la parole de Dieu. Autrement, on risque de devenir un ONG piéteuse, comme l'a dit le pape. Donc, pour nous, la relation entre la vie spirituelle, la vie de prière et la rencontre avec les pauvres, c'est beaucoup lié. Et je pense que nous demandons au pape un nouveau élan sur ce chemin.
C'était Marco Impagliazzo, le président de la communauté Sant'Egidio, interrogé par Marie Duhamel. Ce samedi encore, la place Saint-Pierre a connu un rassemblement de masse, plusieurs dizaines de milliers de personnes, pour la plupart des bénévoles de la Confédération nationale des Miséricordiers d'Italie, une association catholique active en particulier dans la protection civile, le transport médical ou encore les services sociaux, mais aussi les membres des fratresses, les groupes de l'association italienne des donneurs de sang. Vous êtes des témoins de l'évangile, de la charité parmi les malades, les personnes âgées et handicapées, les mineurs, les immigrés et les pauvres, leur a dit le pape. Tout votre apostolat prend du sens de cette parole miséricorde qui veut dire donner le cœur aux pauvres. François qui a conseillé de s'inspirer des récits évangéliques où se manifeste la miséricorde de Jésus pour saisir la proximité, la bonté, la tendresse avec lesquelles le Christ approchait les personnes souffrantes et les consolait, les soulageait, les guérissait. Les miséricordiers qui fêtaient le 28e anniversaire de leur première rencontre avec Jean-Paul II, mais ce 14 juin marquait aussi la 11e journée mondiale des donneurs de sang. Il faut savoir que ces miséricordiers en Italie, fédérés à partir de 1899, représentent la plus ancienne forme de volontariat organisée à travers le monde. Plus de détails sur notre site internet www.radiovaticana.va. À l'approche des élections municipales et départementales qui auront lieu le 29 juin, les évêques du Sénégal lancent un appel aux dirigeants politiques du pays. Ils demandent notamment une campagne électorale sans violence et apaisée. Les responsables de la conférence épiscopale ont tenu une conférence de presse pour évoquer les enjeux importants de ce scrutin. Ils exhortent notamment les responsables politiques à promouvoir la paix et le bien commun, ainsi que le respect de l'autre et de son opinion. Monseigneur Benjamin Ndiaye, évêque de Kaolack et président de la conférence épiscopale du Sénégal, a également dénoncé l'usage de la carte d'électeur comme monnaie d'échange, tout en invitant les Sénégalais à faire de ces cartes un moyen de participer à la construction de leur pays. Aux futurs élus, l'évêque a recommandé de prendre en considération l'aspiration manifeste des populations à une vie meilleure et à un réel développement. Ce samedi, le livre pour Dieu de Sœur Catherine Aubin nous fait rencontrer Jacques Arène. Jacques Arène est docteur en psychopathologie fondamentale et psychanalyste, psychologue clinicien. Il est aussi maître de conférence à l'Institut catholique de Lille, au Centre d'éthique de la famille et du sujet contemporain. Il vient de publier aux éditions du CERF son dernier livre, « Nos vies à créer », dans lequel il parle de ce constat où, d'une certaine façon, chacun aurait à se créer et à redéfinir sans cesse la flèche de son existence. En effet, entre réalisation de soi et dispersion de soi, entre volonté de puissance et atomisation de l'identité, nous rêvons de bonheur et de réussite. Interrogé par Sœur Catherine Aubin, Jacques Arène nous explique le pourquoi de ce livre et ses enjeux.
Jacques Arène est psychanalyste et psychologue. Il vient d'écrire un dernier livre dans lequel il pose cette question « Comment croire que tout a du sens quand la vie semble asséchée ?» Nous lui avons d'abord demandé quel est le sens du titre de son dernier livre « Nos vies à créer ».
C'est vrai qu'un titre, on ne sait jamais trop comment il survient, mais il s'est un peu imposé à moi. L'idée étant effectivement comment, dans un monde très hétérogène, très complexe, très diffus, où chacun crée un peu le sens de sa vie d'une certaine manière, comment le sujet humain peut retrouver une forme de plénitude, une forme d'unité, une forme de dynamisme et de devenir dans un monde complexe. Il s'agit de refaçonner le visage de l'humain de façon à ce que, au fond pour soi-même, mais aussi peut-être d'une manière collective, on puisse, chacun d'entre nous, mais peut-être aussi collectivement, retrouver un peu une unité à nos vies. Beaucoup de personnes portent leur vie, le sens de leur vie, d'une manière un peu solitaire.
Vous dites chacun aurait à se créer et à redéfinir sans cesse la flèche de son existence. Est-ce que c'est cela que vous avez voulu faire en faisant ces cinq chapitres que vous comparez à cinq cercles?
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, c'est un constat, définir la flèche de sa propre existence. Et je pars de ce constat en disant que c'est un constat sur lequel il ne faut pas s'arrêter, parce que notre monde, notre culture ne peut pas s'effondrer sur elle-même comme ça. Je pense qu'il faut que nous en arrivions à sortir les uns et les autres d'un individualisme fermé. Donc comment retrouver le sens du collectif aussi?
Est-ce que justement votre livre essaye d'une part de nous dire les effets de ce monde désenchanté sur notre vie psychique? C'est ça ce que vous essayez aussi de mettre en mots?
Absolument. C'est-à-dire que je pense qu'au fond, ce qui s'est joué au niveau de changement de modèle, avec on s'est extrait de la référence religieuse chrétienne, ça a eu un effet sur le psychisme, bien entendu. Une vision de sujets qui sont très désengagés, très observants de la vie, moins impliqués d'une certaine manière. Un modèle de l'humain qui est beaucoup moins relationnel qu'auparavant, même si aussi il y a beaucoup une attente de relation. Mais effectivement, c'est ces effets-là que j'ai essayé d'analyser, mais en essayant de dire qu'au fond, dans cette négativité, dans cette épreuve que beaucoup de gens vivent aujourd'hui, il y a une possibilité peut-être de création.
Les titres de vos cinq chapitres, les verbes que vous employez sont des verbes très dynamiques. Croire au cœur de notre monde, devenir soi aujourd'hui, construire le sens de sa vie, et puis demander l'esprit aujourd'hui et changer sa vie. Vous proposez quelque chose de dynamique.
Comme un sorcier, mais très modestement, ce qui me semble de l'ordre d'un dynamisme, c'est comme les sources, elles existent quand même quand on a l'impression que le terrain est sec, elles existent quand même sous le terrain, en profondeur. J'essaie de montrer combien, dans une culture où au fond tout semble un peu figé, combien fort on peut essayer de déceler les sources de dynamisme qui sont très profondes, qui sont enterrées sûrement, qui sont simplement méconnues. Il s'agit déjà d'être attentif aux puissances du dynamisme qui existent, et c'est ça un peu que j'essaie de mettre en valeur, qui existent même dans les périodes apparemment les plus négatives de nos vies. C'est dans les périodes d'épreuve que quelque chose d'un dynamisme peut se jouer. Alors c'est vrai au niveau individuel, mais je crois que c'est vrai au niveau collectif.
Vous parlez de l'importance de l'expérience, l'importance aussi de la conversion. C'est justement ce retour à la source en nous?
Oui, tout à fait. Oui, la conversion, c'est, quand on regarde un peu l'étymologie de l'essence, conversion, c'est retourner vers la source, mais retourner vers la source en étant changé. Il y a une très belle phrase de Jean Kélévitz, ça se dit, au fond, il y a dans le Fils prodigue, on dit, peut-être que géographiquement, il revient au même endroit, mais intérieurement, non. Intérieurement, il est changé. Donc, c'est pas un retour au statu quo hanté. Alors, la conversion, c'est un terme qui est effectivement un terme religieux, mais je pense qu'il peut être aussi utilisé dans un but beaucoup plus large, qui dit, au fond, retourner un peu vers la source, mais avec des forces de dynamisme. Je crois que le dynamisme qui donne le futur se nourrit en partie d'un retour à la source.
Et comme chaque semaine, il est temps de laisser la parole au Père Pascal Montavit pour le commentaire de l'Évangile de ce dimanche. Dimanche 15 juin, fête de la Sainte Trinité. Évangile tiré de Saint Jean au chapitre 3. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle.
Nous fêtons aujourd'hui la Sainte Trinité. L'Évangile, pris de Saint Jean, nous parle de l'amour infini de Dieu qui a envoyé son Fils dans le monde afin que tout homme qui croit en lui ne périsse pas, mais obtienne la vie éternelle. Voyons comment cette présentation du mystère divin du salut nous dévoile la Trinité. Le Père a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Père est donc celui qui engendre et qui envoie. Dans l'Évangile selon saint Jean, Jésus se définit lui-même comme l'envoyé. Il est important de souligner cette relation qui unit le Père et le Fils. Jésus, dans un discours où il se présente comme la lumière du monde, affirme « Je ne fais rien de moi-même, mais je dis ce que le Père m'a enseigné ». Le Père est donc celui qui est à l'origine de tout, de la création et du salut. Si nous pouvons lui remettre notre vie dans une confiance totale, c'est parce qu'il n'est qu'amour. Bien sûr, cela nous est difficile de le comprendre, car nous n'avons jamais rencontré un être dans ce monde qui ne soit qu'amour. En disant donc que le Père est amour, nous devons aussi réaliser la limite des mots que nous utilisons. Notre Père sur terre est imparfait et l'amour que nous pouvons éprouver l'est tout autant. Mais à travers cette comparaison, nous pouvons percevoir, dans la prière, une partie du mystère de la Trinité. Le Fils est celui qui a reçu la mission de sauver les hommes. Il est déjà présent à la création, car c'est par lui que tout a été créé. Et c'est encore par lui, grâce au don de lui-même sur la croix, que nous avons accès à la vie éternelle. Mais le Fils se définit aussi comme le Verbe incarné. Parce qu'il est le Verbe, il révèle les mystères de Dieu et de son amour pour les hommes à travers un enseignement. Durant 3 ans, Jésus ne cesse de prêcher et de témoigner de la bonté infinie de Dieu. Notre foi repose donc sur un enseignement qui dévoile la vérité aux hommes. Cette affirmation n'est pas facilement audible par nos contemporains. Aujourd'hui, la société préfère rejeter la notion d'absolu pour prôner un relativisme sans frein ou pour ériger le rationalisme en religion. Je crois uniquement ce que je peux démontrer scientifiquement. Et pourtant, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Dit autrement, la raison n'est pas la seule source de connaissance. De cela, chacun peut faire l'expérience. En effet, nous pouvons avoir une conviction intérieure que nous ne pouvons pas démontrer, et pourtant nous y croyons totalement. Il en est de même de la foi. C'est le cœur qui nous l'enseigne lorsque nous prions et que nous faisons l'expérience de Dieu. Enfin, l'Esprit-Saint est celui qui sanctifie les hommes afin de nourrir en eux la vie éternelle. Il nous est donc donné, par le baptême et la confirmation, afin que la grâce déposée en nous puisse croître et porter du fruit. L'Esprit-Saint est celui qui nous guide lorsque nous avons des choix à poser. Il est celui qui nous inspire des actes de foi, de charité et d'espérance. Prions en ce jour pour découvrir la vie trinitaire et y entrer nous-mêmes. Poussés par l'Esprit, nous pouvons en Jésus nous tourner vers Dieu et l'appeler « Abba, Père ».
Ainsi s'achève ce magazine. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.